Mes frères et sœurs, bonsoir ou bonjour. Dans le cadre de notre commentaire biblique, mes versets de la semaine, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 20 du premier livre de Samuel. 1 Samuel 20, du verset 1 au verset 17. Nom de Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te louons parce que tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu qu'en dehors de toi n'en a point. Père, nous recommandons cette parole en tes mains. C'est ta parole, Seigneur, c'est toi qui la connais plus que tout le monde, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous autres, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Daigne maintenant que ta parole soit annoncée, soit commenté avec puissance et autorité, avec grâce également et vérité. Ô éternel notre Dieu, notre Père, je me remets en tes mains et je remets les frères et sœurs qui m'écoutent aussi en tes mains. Permets que ce qui sortira de moi élève ton Fils et ton Fils seul et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus ou Yeshua. Amen. Donc, dans le chapitre précédent, le chapitre 19, nous avons vu comment David a fui donc pour se réfugier chez Samuel à Rama, et les deux sont allés à Nayoth. Et c'est là où Shaoul est venu les chercher. Et David, donc, dans ce chapitre 20, est reparti de Nayoth pour retrouver Jonathan. Donc, c'est ça, parce que David ne voulait pas attenter à la vie de Shaoul, parce que Shaoul était quand même à sa merci et il pouvait le tuer. Mais il ne voulait pas d'une guerre civile, il ne voulait pas verser le sang innocent, le sang de ses propres soldats, même si ses soldats, sous l'influence de Shaoul, voulaient le tuer, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est ça sa préoccupation, sa première préoccupation. C'est pour cela qu'il a fui. Il a voulu rester fidèle à la parole de Dieu. Tu n'assassineras pas. Et donc, il a fui. Il est parti interroger donc son ami Jonathan. Parce que Jonathan était, sur le plan humain, sa garantie de sécurité. Mon frère, ma sœur, si toi aussi tu ne peux pas fais face à quelque chose, fuis. Hein, fuis comme Joseph a fait en Égypte. Voilà. Comme il ne pouvait pas faire face à cette tentation, ou bien il pouvait faire face, mais dans tous les cas, il était dans une mauvaise posture. Voilà. Il ne voulait pas se suivre, il ne voulait pas aussi agresser cette dame, la femme de Potiphar. Donc, il a préféré fuir. Il y a certaines situations où nous ne pouvons que fuir. La Bible même nous dit, nous recommande de fuir l'impudicité. Il a dit fuir l'impudicité. Fuyez. Fuyez. Il y a un proverbe qui dit seule l'impudicité convainc en fuyant. Bon, c'est pas le cas ici de David, mais David ne voulait pas attenter donc à la vie de Shaoul ou bien un de ses soldats. Donc il est parti voir Jonathan pour s'expliquer parce que Jonathan était sa garantie de sécurité. Nous pouvons intituler sans soucier ce commentaire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est vrai, tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que je voudrais souligner l'amour de Jonathan et David, l'amitié forte ou la préoccupation de l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se préoccupaient l'un de l'autre parce qu'ils ont fait serment. Si nous voulons vraiment trouver un exemple typique où l'amour que Jésus nous demande, où Yeshua nous demande d'avoir pour notre prochain, pour notre frère, c'est ici l'illustration. L'illustration ici, voilà, c'est dans la, je ne sais pas si il pensait à ça, à ce chapitre, à l'amitié entre David et Jonathan, pour dire les choses, mais voilà une illustration. Donc, David donc, est parti voir Jonathan, et pour lui poser des questions, voir avec lui, quoi, avoir des explications, pourquoi son père tenait tant quoi, à le tuer. Donc, je pense qu'il y avait un esprit maléfique derrière, comme je l'ai toujours dit, cet esprit maléfique voulait éteindre le Messie. Parce que si David était mort sans avoir une progéniture, le Messie ne serait jamais venu, puisque le Messie doit passer par sa lignée, impérativement. David était un type messianique par excellence. Donc le Messie est de sa descendance, devrait être de sa descendance. Donc, il n'y a pas photo. L'ennemi, sachant cela, d'accord, donc voulait éteindre, voulait tuer le Messie, ainsi de suite. De la même manière qu'aujourd'hui, l'ennemi, par des instruments humains, fait tout pour submerger Israël, pour détruire Israël. Parce que si Israël est détruit, si Jérusalem est partagée en deux, ou bien si Jérusalem est anéantie, ben, ça risque de retarder la venue du Messie, puisque le Messie Yeshua, ou Jésus en français, donc est le roi des Juifs, d'abord. Quel que soit ce que les uns les autres diront, il n'est pas le roi des Mina, il n'est pas le roi des Évées, il n'est pas le roi des Gaulois, ni le roi des Francs, il n'est pas le roi des Slaves, il n'est pas le roi des Amérindiens. Il est d'abord le roi des Juifs. Voilà, nous devons le savoir. Ça, c'est vrai. Il régnera à Jérusalem, pas à Lomé, ni à Paris, ou à Tombouctou, ou à Moscou, ou bien à Djibouti, ou je ne sais pas, à Samarcande. Vous voyez, non, c'est pas là-bas. Et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se trouve à Jérusalem. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc, dans sa discussion donc, avec Jonathan, David donc, a rappelé à Jonathan donc, leur alliance. Et il préfère mourir même par la main de Jonathan que par la main de Shaul. Si vraiment il a fait quelque chose, il avait fait quelque chose qui méritait la mort. Mais rien, David était innocent. Et la Bible nous dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour le coupable. Et la Bible nous dit aussi dans un proverbe de sauver, je ne vais pas lire, mais vous connaissez, de sauver, sauve, défend, ce qu'on traîne à la boucherie. Si tu dis, je ne le sais pas, l'Éternel te demandera des comptes. Je ne sais pas si Jonathan connaissait... non, c'est après que c'est venu, puisque les proverbes ont été écrits par Salomon. Donc voilà, c'est après. Mais peut-être qu'il agissait selon ces principes-là, parce que Jonathan était un homme de foi, hein, Jonathan. Donc voilà. David donc va dire un plan avec Jonathan pour voir si réellement Shaul avait conçu de le tuer. Vous voyez que jusqu'à présent, David doutait, Jonathan aussi doutait, de l'intention de son père. Vous voyez, il ne voulait pas tomber dans le lachonara, puisque la Bible nous dit de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas faire de médisance. Vous voyez, il ne voulait pas tomber dans le lachonara, donc il voulait une preuve certaine que Shaoul avait résolu la mort de David, parce que Jonathan doutait encore. Il a dit non, mon père ne peut pas faire ça. Il ne fait rien sans me le dire. Donc, je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 7, parce que c'est important. Jonathan dit à David, « Que veux-tu donc que je fasse pour toi ?» David répondit à Jonathan, « C'est demain la nouvelle, la Néoménie. » Néoménie, c'est la nouvelle lune, la fête de, c'est le début de l'année, au mois de mars. Au mois de mars, le mois de Nissan, qui est le mois de où se célèbre donc la Pâque, la nouvelle lune. Et je dois être assis à table près du roi. Tu me permettras de m'absenter et je me cacherai dans la campagne jusqu'au troisième soir. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a demandé la permission de courir à Bethléem, sa ville, Bethléem. La maison du pain, sa ville où toute sa famille célèbre le sacrifice annuel. Si alors il dit « Bon, c'est le salut pour ton serviteur », s'il dit « Bon, c'est le salut pour ton serviteur », mais s'il se met en colère, sache qu'il a résolu mon malheur. Voilà. Et je repose encore cette question, parce que c'était semblable à ce que Mica, la femme de David, a fait ici. Est-ce que David a menti? Est-ce que c'est un faux témoignage? Est-ce que Mica a menti? Non. Moi, je dis que non. Il n'a pas menti. Parce que David étant innocent, on ne peut pas le tenir pour coupable. Et puis, c'est un fait de guerre. C'est un fait de guerre. Donc, il est permis de tromper l'ennemi, de tromper son adversaire, vous voyez, de tendre un piège à l'adversaire. Il est permis, il ne ment pas, parce que on ne peut pas, c'est la question que je me pose, mais les frères et sœurs ne m'ont pas répondu. Est-ce qu'il est permis, a-t-on le droit de dire la vérité pour livrer un innocent à la mort qui vient se cacher chez toi, tout en sachant que la personne est innocent? Est-ce que tu dois le livrer à la mort? Est-ce que Jonathan doit livrer David à la mort ici, sachant que David était innocent? Est-ce que Mica, qui a protégé la fuite de son mari, a menti, a péché? Non! Non, 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 non. Il a protégé la fuite de son mari. Il a trompé l'ennemi. L'ennemi, l'adversaire, qui est sûr qu'il voulait attenter la vie de son mari. Alors que son mari est innocent. Elle l'a protégé. Et David ici voulait une preuve pour montrer que Shaoul vraiment en voulait à sa vie. Donc, il a voulu tromper. S'il s'était présenté, mais il sera obligé de se défendre. Vous voyez? Donc, ça pourrait se terminer vraiment en eau de boudin. Entre eux. Donc David n'a pas menti ici, c'est de la stratégie. Il n'a pas donné de faux témoignages, c'est de la stratégie. D'accord, mes frères et sœurs, ne prenons pas tout pour du mensonge. Ne prenons pas tout pour du mensonge. C'est un test qu'il a fait pour voir si Shaoul en voulait vraiment ou bien si Shaoul est résolu à le tuer ou pas. Et c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se voir. Donc, David a conclu ce plan donc, avec Jonathan et a rappelé, après avoir ficelé donc, la stratégie avec son ami Jonathan, donc il a rappelé à Jonathan l'alliance brite qu'ils avaient conclu ensemble. D'accord? Donc, Jonathan aussi lui assure lui assure sa fidélité. Est-ce que nous, nous sommes comme ça? Est-ce que nous sommes fidèles en amitié? Mes frères, est-ce que nous sommes fidèles en amitié? Est-ce que vraiment nous pouvons défendre au prix de notre vie notre ami, le frère que nous aimons, la sœur que nous aimons? Parce que c'est ce que Yeshua a rappelé, que le véritable ami, c'est celui qui peut donner sa vie pour l'autre. Mais oui, c'est ça ici, c'est ça. C'est cette amitié-là qui est entre, qui est entre Jonathan et David. Et cette amitié n'était pas simplement une amitié de la bouche, pas dans la bouche, mais c'est une amitié concrète, c'est une amitié pratique. La Bible nous dit de ne pas nous borner à écouter simplement la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Est-ce que tu aimes vraiment ton prochain comme toi? C'est pas simplement avoir des sentiments vagues. Non, c'est pas ça. C'est le concret. C'est des actions, c'est des actes qu'il faut poser, mon frère et ma sœur. Donc, Jonathan donc a rassuré David. Et lui a promis qu'il le ferait savoir selon le résultat du test. Donc, Jonathan donc aussi a planifié comment il va faire connaître donc la réponse à David. Et c'est ce qu'il fit dans le chapitre 11 jusqu'au chapitre 17. Hein, c'est ce qu'il a fait. Donc il lui a promis qu'il lui ferait savoir après avoir testé son père, et il demande à David d'être aussi fidèle à l'alliance en protégeant sa maison. C'est comme si Jonathan savait qu'il allait mourir. Hein, qu'il allait mourir. Donc, il allait mourir. Donc, il a demandé donc à David donc de protéger, de s'occuper de sa descendance lorsque il ne sera plus de ce monde, d'être bienveillant, parce que Jonathan sait que David règnera à la place de son père. De son père qui règnera. C'est pourquoi il est comme ça avec David. Il le protège. Vraiment, Jonathan a été un don pour David, vraiment. C'est l'Éternel Dieu qui l'a donné à David, qui l'a mis sur son chemin. De la même manière que l'Éternel, notre Dieu, mette sur nos routes des gens préparés, des frères et des sœurs qui sont fidèles à la parole de Dieu, qui se sanctifient le jour, et que ces personnes aussi puissent nous édifier, puis nous amener à aller encore plus loin, à aller dans la connaissance du Messie. Du Messie. Il y a aujourd'hui beaucoup d'amitiés superficielles dans les assemblées. Vous savez, c'est le problème qui se pose dans beaucoup d'assemblées, c'est vraiment ce manque d'amour. Dans les assemblées, les gens sont disposés l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une sœur qui m'en a parlé comme ça. Les gens ne s'aiment que le dimanche, ils se rassemblent et puis c'est bon. Ou le samedi, ils se rassemblent et puis c'est bon. Ils chantent Alléluia et puis c'est tout. Au moment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritable amitié. Je dis la majorité, c'est superficiel. Si cette personne pouvait te médire sur toi, te planter un couteau dans le dos, il le fera. Il le fera. Vraiment, beaucoup d'entre nous avons été déçus par des frères et des sœurs. Et sûrement que vous aussi, vous avez sûrement fait des expériences similaires. et que dans les assemblées, ce qui manque aujourd'hui, c'est le véritable amour, la véritable amitié dans le Messie Yeshua. C'est ce qui se passe. Les gens sont à côté les uns des autres. En dehors des quatre murs, c'est fini, hein? En dehors des quatre murs de l'assemblée, hein, du moment de la célébration, on te sourit, on t'appelle frère, et après, c'est fini. Il n'y a plus de frère, il n'y a plus de sœur. Il n'y a plus de sœur. Même si ce frère pourrait tirer profit de toi, il le fera. Il suffit de voir quand vous demandez des fois des travaux à certains frères ou sœurs, comment ils vous coupent, comme on dit chez nous. Ils vous coupent comme il faut, parce que comme toi, tu es chrétien, tu es croyant, tu vas dire, oh non, le frère ne peut pas me tricher, le frère ne peut pas me faire ça. Mais lui, il compte sur ta naïveté, sur ta crédulité pour te plumer comme un pigeon. Et ce n'est pas le cas ici de Jonathan et de David. Jonathan n'a pas été hypocrite vis-à-vis de David. Il lui dit même, pas l'Éternel, Dieu d'Israël, je sonderai mon père dans ces trois jours, s'il est bien disposé pour David, et si alors je ne te l'envoie pas révélé, que le Seigneur en fasse tant et plus à Jonathan, que si mon père se complaisait dans la pensée de te nuire, je te le releverai et je te ferai partir, et tu t'en iras en paix, et que le Seigneur t'assiste comme il a assisté mon père. Voilà ce que Jonathan a déclaré à David. Et à la fin, dans le verset 17, et Jonathan continua de protester de son amour, d'adjurer David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Voilà, parce que la mort de David serait comme la mort de Jonathan, puisqu'il l'aimait comme lui-même. Il a dit que si, son propre père, hein, que s'il avait de mauvaises dispositions envers David, il le laisserait partir, il ira en paix. Et il a assuré avec serment à David de son amour, de son amitié, de son affection. Voilà, il l'aimait comme lui-même. Voilà, mes frères et sœurs, cet amour, c'est ce que nous devons avoir dans les assemblées. C'est pourquoi Yeshua, avant de partir, avant d'aller à la croix, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 17? Il a prié son Père afin que les disciples soient un. Il a même dit qu'il prie pour les gens qui étaient présents et pour ceux qui croiront dans leur parole et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc cette prière est valable pour nous, de Jean 17, est valable pour nous. Afin que nous soyons un, afin que nous nous aimons les uns les autres. Parce que c'est lorsque les gens verront l'amour entre vous qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Le contraire est vrai également. Donc si on ne voit pas l'amour dans les assemblées, qui sont des fois comme des clubs, c'est que ces assemblées ne sont pas des disciples de Jésus, ne sont pas des disciples de Yeshua, parce qu'il n'y a pas d'amour. Combien de drames, combien de choses on n'a pas entendu dans les assemblées. Des complots, des choses immondes qui ne devaient même pas se nommer parmi nous. Hein, c'est ce que la parole de Dieu même nous dit. Mes frères et sœurs, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir et nous devons demander à l'Éternel Dieu de nous donner de cet amour, à aimer nos frères comme nous-mêmes, à aimer nos frères, à être bien disposés envers nos frères et sœurs, à avoir un amour saint. Hein, oui, je dis un amour saint et saint. Un amour saint et saint pour nos frères et sœurs. Oh, que l'Éternel nous donne cette grâce, ô Père céleste, donne-nous cette grâce, ton Fils a prié pour nous, et nous voulons entrer dans cette dimension comme David et Jonathan ici la paix. Je prie la paix pour tous les frères et sœurs qui m'écouteront la Seigneur Père. Donne-leur de cet amour. Donne-nous la grâce vraiment de t'aimer plus que tout. Qu'aucun sacrifice ne soit grand quand il s'agit de tes affaires. Qu'aucun sacrifice ne soit grand pour nous quand il s'agit du royaume, de l'avancement du royaume des cieux. Ô éternel notre Dieu là, comme l'apôtre Paul, donne-nous la grâce que tout ce qui était pour nous de l'intérêt, tout ce qui était pour nous comme de l'or, soit comme de la boue maintenant à cause de la connaissance du Messie. Donne-nous la grâce que chaque jour que nous avançons dans la connaissance du Messie, Yeshua, parce que c'est ce qu'il lui-même a dit, c'est le secret de la vie éternelle, ô éternel, notre Dieu, la paix, viens à notre secours, afin qu'à travers Yeshua, Jésus en français, que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as donné pour salut, Yeshua. Ô éternel, notre Dieu, la paix. Oh, nous nous remettons en tes mains, la Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, la Seigneur, Père. Aie pitié de nous, la paix. Donne-nous la grâce. Je prie la paix pour les assemblées, pour les frères et sœurs, partout où ils sont, la Seigneur, Père. Déverse en nous par ton esprit la paix. Cet amour, la Seigneur, cet amour qui nous permet d'aimer sans attendre, qui nous permet de donner sans attendre, de nous donner et de donner ce que nous avons, ô éternel, notre Dieu, la paix. Viens à notre secours. Nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin de toi, la paix. Yeshua, toi-même, tu as dit que sans toi, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi, ô Père, nous venons à toi. Nous venons à toi, là. Yeshua a dit que sans lui, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. C'est pourquoi, ô Père, nous prions que Yeshua, le Seigneur Jésus, grandisse en nous chaque jour. Qu'il grandisse en nous, la Seigneur. Et que chaque jour, nous nous diminuions, la Seigneur. Afin que nous puissions mourir à ce monde. Mourir à nous-mêmes. Et mourir à ce monde, ô éternel notre Dieu. Nous, c'est vers toi que nous nous tournons. Personne d'autre ne peut le faire. La psychologie ne le fera pas. Le développement personnel ne le fera pas. Oh oui, éternel des armées, là. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, mais c'est toi seul qui peux le faire. Ainsi, ô éternel, notre Dieu, la paix, c'est vers toi que nous nous tournons, nous crions à toi, viens à notre secours, donne-nous ce cœur, afin que nous puissions aimer, Seigneur, t'aimer d'abord, et aimer nos frères et sœurs, Seigneur, comme toi-même tu nous as aimés, ô éternel, notre Dieu. Nous te louons, nous te glorifions, nous élevons ton saint nom, là, Seigneur. Viens à notre secours, là, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Seigneur Père, ta volonté, c'est que nous puissions grandir au jour le jour et que nous arrivons à la statue parfaite, à l'état d'Adam, à l'état d'être humain fait, à l'état d'Adam, à la statue parfaite du Messie. Ô éternel notre Dieu, donne-nous la grâce de nous sanctifier le jour, sanctifions aussi par ta parole, afin que nous puissions achever notre sanctification dans la crainte de ton nom, tous les jours de notre vie. Nous te louons, Père, dans le nom de Yeshua. Amen et Amen.